Bonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bonsoir Stéphane, qui réalise ce libre journal. Et comme Stéphane vous l'a indiqué dans son annonce, vous pouvez nous envoyer des messages à l'adresse électronique suivante, courtoisie@rc.fr. Ce soir, notre libre journal de la souveraineté aura pour thème « Un redressement de l'économie française est-il possible ? Un constat historique ? Une situation présente ? Les axes d'un redressement ?» Et pour nous entretenir de ce thème, je reçois ce soir André-Victor Robert, économiste. Bonsoir André-Victor Robert.
Bonsoir Michel Leblay, bonsoir aux auditeurs.
Merci André-Victor Robert. Alors André-Victor Robert, je vous avais déjà reçu le 6 juin 2024 à propos de votre remarquable livre « La France au bord de l'abîme, les chiffres officiels et les comparaisons internationales » publié chez l'Artilleur. Mais vous êtes aussi l'auteur de nombreux articles publiés sur Polémia. Je relève entre autres « Quelle politique macroéconomique pour la France ?» du 10 août 2022, « La France au bord du gouffre ?» du 5 juin 2023 et « Grève culturelle, l'impact économique à long terme de l'immigration », article dans lequel vous faites une recension du livre de Gareth Jones « The Culture Transplant, How Migrants Make the Economies They Move to a Lot Like the Ones They Left » du 13 mars 2025. Je vous prie de m'excuser pour l'accent, mais vous avez fait un travail remarquable parce que vous avez traduit ce livre et vous en avez fait une synthèse. Et on y fera probablement allusion dans notre, au cours de l'émission. Et j'invite vivement nos auditeurs donc, à se reporter à cet article publié donc, sur le site de Polémia.
On peut peut-être donner la traduction du titre de cet ouvrage.
Au contraire, je vous en prie.
Donc, c'est la grève culturelle ou comment les migrants transforment petit à petit les pays dans lesquels ils s'installent.
Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et véritablement, c'est un article tout à fait passionnant et qu'il faut lire parce que justement, il n'est pas éloigné, nous le verrons, de notre sujet, si j'ose dire. Alors, à ce jour, la situation de l'économie française apparaît comme particulièrement préoccupante. Une dette publique représentant à la fin du troisième trimestre 2025 117,4% du PIB, un déficit budgétaire prévisionnel de 5%, déficit 2025, il était de 5,4%. Un commerce extérieur déficitaire, même si l'année 2025 marque un redressement. 69,2 milliards d'euros de déficit en 2025 contre 79 milliards en 2024, par rapport, soit une hausse des exportations de 2,5%, une baisse des importations de 0,7%, due d'ailleurs en partie à la baisse des prix de l'énergie. Une croissance du produit intérieur brut en volume pour le moins faible, 0,9% en 2025, et une évolution de la productivité qui suscite les plus vives inquiétudes. Face à cette situation, les commentaires et les analyses ne manquent pas, rivalisant dans les inquiétudes. D'abord le montant de la dette publique et les risques qu'il engendre, ainsi le niveau de la charge fiscale, sa répartition, inégale pour certains, son effet délétère pour d'autres. Et puis, il y a le coût croissant des retraites, dans un contexte démographique très défavorable, et d'une manière générale, l'importance des dépenses sociales, même si pour une part, elles sont justifiées, vu notamment le vieillissement de la population. Mais ne confondons pas les causes et les conséquences. D'un côté, une démographie qui s'effondre. Pour l'année 2027, le taux de fécondité par femme s'est élevé à 1,56, alors qu'il atteignait en moyenne 2,5 dans les années 60. Puis, il y a cet élément majeur, non indépendant de la démographie d'ailleurs, c'est-à-dire la faiblesse de la croissance du PIB en volume. La France est confrontée à l'insuffisance chronique de la création de richesses qui permet l'emploi et la hausse des revenus réels en proportion de l'augmentation des richesses créées. Et par rapport à cela, pour mieux appréhender la réalité présente, il y a une première réflexion historique sur ce qu'a été la croissance et ce phénomène exceptionnel que furent les Trente Glorieuses, ainsi dénommées en 1979 par Jean Forastier. Rappelons que de 1949 à 1974, la croissance moyenne annuelle en volume fut de l'ordre de 5,3-5,4%. La croissance économique est assise sur un élément déterminant, la croissance de la productivité. Et selon une étude de Gérard Bouvier et Charles Pilarski, publiée dans la revue INSEE première de juillet 2008, durant cette période des 30 Glorieuses, la croissance de la productivité fut de 5,6% par an en moyenne. Une autre étude de messieurs Bergeau, Sette et Leca indique un résultat un peu plus faible de 4,7% entre 1950 et 1975. Pour autant, au-delà des écarts entre ces deux calculs, il s'agit de la performance la plus élevée jamais réalisée, en soulignant qu'à partir du début des années 1960, le taux de croissance de la productivité observée affaiblit quelque peu, mais dans des proportions limitées. Alors, peut-être, pour être mieux appréhendé ou pour mieux appréhender le phénomène de la croissance du produit intérieur, celui-ci doit faire l'objet d'une vision plus étendue dans le temps. Et de ce point de vue, il faut souligner toute l'importance des travaux réalisés par Angus Maddison, économiste britannique, et son équipe. Ils ont constitué pour un large ensemble de pays, leur produit intérieur, le produit intérieur de ces pays, en remontant parfois jusqu'à l'Antiquité. Le calcul est effectué sur une même base en dollars, permettant ainsi des comparaisons dans le temps et dans l'espace. Antérieurement au XIXe siècle, les calculs ne sont pas annuels et ils le deviennent progressivement pour les pays industrialisés au XIXe siècle. Ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est l'envolée de la croissance du produit intérieur due à la révolution industrielle, tournant capital dans l'histoire de l'humanité. Si le début de la révolution industrielle date des environs de 1750 au Royaume-Uni, c'est à partir des décennies 1820-1830 que les effets en sont observés sur l'augmentation du produit intérieur année par année pour le Royaume-Uni et la France. Certes, la tendance est jalonnée de périodes de crise, marquées par la rétraction du produit intérieur. Ces évolutions étaient théorisées à travers le concept de cycle, cycle de Juclard, cycle de Kondratiev. Pour la France, selon les séries reconstituées par Angus Maddison, la croissance annuelle moyenne en volume du produit intérieur aurait été de 1,67% de 1830 à 1913 et de 1,92% de 1890 à 1913. Le choix de cette seconde période, bornée à la veille de la Première Guerre mondiale, correspond à la montée dans le tissu économique des effets de la seconde phase de la révolution industrielle, celle de l'électricité, du moteur thermique, de la chimie. À noter que l'Allemagne, qui basculera un peu plus tardivement dans la croissance économique, dépassera la France en termes de produit intérieur dès 1873 et le Royaume-Uni en 1908, source d'une rivalité qui est l'une des raisons de l'entrée de celui-ci dans le conflit mondial. Comme indiqué précédemment, en 2025, la croissance du PIB en volume n'a été que de 0,9%. Quelle chute par rapport aux résultats enregistrés il y a un demi-siècle. Il nous faut alors essayer de déterminer les facteurs qui expliquent ce phénomène des Trente Glorieuses, commun aux différents pays développés de l'époque, hors bloc communiste, les États-Unis ayant précédé l'Europe. Puis, comprendre la rupture survenue au milieu des années 70 pour l'ensemble de ces pays développés et l'affaiblissement français qui s'accélère avec le temps et ses conséquences. Ce fléchissement du rythme de croissance observé depuis un demi-siècle au sein de l'ensemble des pays occidentaux a conduit à des réflexions théoriques. Parmi celles-ci, relevons celle de Robert Gordon en 2016 sur la stagnation séculaire, reprenant ainsi l'intitulé d'un ouvrage d'Alvis Hansen publié en 1938, ou celle de Lawrence Summer. D'autres remettent en cause le principe même de la croissance sous prétexte de la préservation de l'environnement et de la planète. Ainsi, un Britannique, Tim Jackson, a professé l'idée d'une prospérité sans croissance. La prospérité étant définie comme un état dont nous jouissons quand les choses vont bien pour nous en conformité avec nos espoirs et nos attentes. Cette définition de la prospérité paraît pour le moins floue au regard des attentes réelles observées auprès des populations en termes de pouvoir d'achat et de besoins matériels. Alors, après cette introduction un petit peu longue, et je vous prie de m'en excuser, alors André-Victor Robert, avant d'examiner les axes de redressement possibles, quelle explication donner à ce phénomène des Trente Glorieuses ? Pourquoi ce déclin économique enregistré depuis le premier choc pétrolier ? Et quel bilan aujourd'hui ?
Merci. Merci aussi pour cette introduction qui témoigne d'une grande érudition. C'est toujours agréable. Alors, sur les Trente Glorieuses, effectivement, il faut avoir en tête que c'est un moment, vous l'avez bien dit, très particulier, unique dans l'histoire, un moment de forte croissance. Et on n'a pas forcément d'explication très convaincante sur les raisons qui font que dans tous les pays occidentaux, finalement, la productivité a beaucoup augmenté et très rapidement dans tous ces pays sur cette période. Si ce n'est que, comme vous le suggérez, c'est probablement l'effet de, comment dire, du plein potentiel des technologies qui sont arrivées à maturité avec la révolution industrielle. Mais on n'a pas énormément d'autres facteurs explicatifs. Alors, il y a quand même ce qu'on peut évoquer quand même, c'est donc c'est qu'il y a eu des réactions en chaîne du fait de progrès d'abord de la productivité dans le domaine agricole qui a libéré de la main-d'œuvre disponible pour aller s'employer dans l'industrie et un petit peu plus tard aussi dans le tertiaire. Ça a joué fortement parce que l'industrie est un secteur dans lequel les gains de productivité sont traditionnellement importants. Et évidemment, la contrepartie de ça, c'est que le déclin de l'industrie qu'on observe en France depuis 30 ans, eh bien, on le paye aussi en termes de productivité. Et on le paye aussi en termes de niveau de salaire, parce que traditionnellement, les salaires ouvriers dans l'industrie, ils correspondent à des emplois qui sont quand même relativement qualifiés. Et les niveaux de salaire sont plus élevés que dans les services qui emploient une main-d'œuvre moins qualifiée. Et donc ça joue aussi sur la progression des niveaux de vie.
Alors, c'est passionnant d'ailleurs ce que vous venez de nous dire, André-Victor Robert. En effet, ce phénomène exceptionnel pourrait être lié en effet à le plein aboutissement de la révolution industrielle, sachant que durant cette période, la France, en termes de taux de croissance, a réalisé un taux de croissance en seconde position derrière le Japon. Mais cela s'explique peut-être parce que sous la Troisième République, la France avait pris du retard par rapport à d'autres. Et vous parliez très justement de l'agriculture. Et après la guerre, il y a eu des réserves de productivité considérable dans l'agriculture et avec le passage d'une main-d'œuvre de l'agriculture vers l'industrie. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, nous allions en vacances à la campagne dans la Mayenne et on parlait, les jeunes partaient en effet vers l'industrie parce que l'agriculture libérait des emplois. Alors, ça, c'est la vision générale de la période, mais cette période, elle n'a pas été, je dirais, totalement linéaire, en ce sens que, à partir du milieu des années 60, la France s'ouvre à l'extérieur du fait du traité de Rome, de la Communauté économique européenne, et que c'est à partir de ce moment-là, tout en ayant un taux de croissance élevé, que le taux de chômage a tendance à monter. Hein, je crois que... Et alors, j'ai toujours retenu cette phrase ou de Georges Pompidou répondant à Pierre Vincent Ponté dans un entretien 20 janvier 1967, à l'époque où tout allait bien, si j'ose dire. Nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent. En permanence, il y a en France un problème de l'emploi. En permanence, on devra veiller à ce que l'emploi soit assuré aux Français. C'était, presque prophétique. Et on ne se doutait pas que 10 ans plus tard, vraiment, le problème de l'emploi se poserait comme il s'est posé.
Oui, alors, je voudrais revenir sur le commerce extérieur.
Tout d'abord. Oui, tout à fait, au contraire, allez-y.
Du point de vue de la théorie économique, l'ouverture au commerce extérieur, en tout cas à dose raisonnable, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça oblige l'économie à rester compétitive, ça oblige les entreprises à innover pour rester compétitives. Donc, il y a un certain nombre d'effets bénéfiques. Ensuite, on peut discuter du degré optimal d'ouverture. Peut-être qu'on est au-dessus de ce degré optimal d'ouverture maintenant. En tout cas, il y a matière à discussion sur le sujet-là. Maintenant, les économistes ont tendance à croire quand même que la concurrence n'est pas exempte de bienfaits.
Elle a été portée, crois. Oui, parce que vous avez tout à fait raison de rebondir là-dessus. Parce que quand de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, certains se posaient la question par rapport au traité de Rome. Et il a considéré, sous les conseils d'économistes, il a considéré que, justement, pour la France, ça l'obligerait à se confronter à la concurrence et ça aurait des effets bénéfiques.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui s'est passé après, c'est l'ouverture du commerce international à des pays où, en particulier, les niveaux de rémunération étaient beaucoup moins élevés que la France, donc avec une concurrence qui, pour le coup, était un petit peu faussée. Donc là, il y a matière à discussion, pour le coup.
On va y revenir parce que ce phénomène de la mondialisation s'est développé dans les années 1900-1980. Et on va revenir sur le sujet. Alors donc, je pense qu'on a assez bien décrit ce que furent ces 30 glorieuses, après 1968, entre 68 et 73, les taux de croissance étaient très élevés, de l'ordre de 6% en volume, parce que l'inflation n'était pas non plus négligeable, parce que durant cette période, il y a eu un ralentissement de la hausse des prix au milieu des années 60, mais enfin, on était plutôt en période d'inflation. Moi, je me rappelle, quand je faisais mes études, il y a bien longtemps, le professeur d'économie parlait d'inflation rampante. C'était de l'ordre de 4-5%. C'est pour un peu caractériser la période. Et puis je passerai, mais ça n'a pas joué directement, ça n'a pas joué sur la croissance, les problèmes monétaires avec le dollar. Mais ça, c'était en parallèle. Donc, même début des années 70, une croissance très élevée en volume, 6%. Et puis arrive le choc pétrolier de 1973. Et à ce moment-là, la situation se retourne. Alors, pendant longtemps, plusieurs années, la baisse du taux de croissance qui a été enregistrée a été attribuée au choc pétrolier. Mais est-ce que ce choc pétrolier n'a pas été un révélateur par rapport justement à une évolution structurelle des économies ?
Alors, un révélateur, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est probable, c'est que la croissance aurait ralenti de toute façon, parce que ce qui s'est passé pendant les 30 glorieuses, c'est aussi un rattrapage par rapport aux États-Unis, une mise en œuvre des techniques, des organisations de la production qui ont montré leur succès aux États-Unis dans la période de l'entre-deux-guerres. Et donc, une fois ce rattrapage réalisé, mécaniquement, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un ralentissement. Ce qui s'est passé, mais on y viendra sans doute un petit peu plus tard, c'est que depuis 50 ans, il y a eu quelques décisions majeures qui ont eu un impact très négatif quand même sur la production, sur l'activité économique dans ce pays. Donc, mais je suppose qu'on y viendra.
On va aborder le sujet parce que, justement, le problème, c'est qu'on a cette situation provoquée par le choc pétrolier de 1973, sachant qu'il y en a eu un second en 1979. Et à l'époque, personne ne s'attend, c'était au moment de la guerre du Kippour, aux effets qui allaient en résulter. Alors, il y a une première décision qui a été prise, mais elle qui a été positive, c'est celle prise par le gouvernement Messmer de lancer le programme nucléaire. Ça a été la première décision. Ça a été la décision positive. Seulement, Georges Pompidou décède en avril. Valéry Giscard d'Estaing est élu au mois de mai. Et il nomme comme Premier ministre Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, peut-être marqué par les événements de mai 68, mais en effet, vous avez parlé, vous mettez en cause et très justement les décisions qui ont été prises. Jacques Chirac va choisir de protéger, si j'ose dire, le niveau de vie des ménages au détriment des entreprises, entreprises qui sont obligées de toute manière de s'ouvrir à la concurrence extérieure. Est-ce que là, c'est pas... Ça a duré 2 ans, mais est-ce que ce n'est pas la première faute, la première erreur, si j'ose dire, qui a été commise ?
Ah, vous avez tout à fait raison. Alors, effectivement, les connaissances économiques d'une partie des élites, pas toutes dans ce pays, mais une partie notable et influente, sont influencés beaucoup par la théorie keynésienne. Et il y a effectivement l'idée que s'il y a un souci, eh bien, il faut relancer la demande parce que l'offre suivra. Et la réalité économique, elle n'est pas forcément keynésienne. Elle peut l'être dans certaines circonstances. Il arrive que parfois la demande soit inférieure à la capacité productive de l'économie. Et là, il peut y avoir du sens à procéder à une relance ou à une augmentation de la masse monétaire. Ça, c'est la théorie macroéconomique keynésienne telle qu'on l'enseignait à l'université il y a 40 ans.
Quand j'ai commencé mes études, c'était Keynes. Quand j'ai terminé, c'était Milton Friedman.
Ben, j'ai un petit peu connu les mêmes évolutions. Par contre, il ne faut pas du tout négliger le côté de l'offre. Et effectivement, il a été remis en avant de manière parfois un peu brutale par certains économistes anglo-saxons dans les années 80-90. Mais à court terme, on peut être keynésien, en gros, pour forcer le trait. Et d'ailleurs, les modèles macroéconomiques qui sont en usage dans les institutions d'analyse conjoncturelle comme l'OFCE ou au sein de l'administration, ces modèles sont keynésiens dans leur facture. Ils avaient un fonctionnement à long terme qui était parfois mal décrit. C'est moins vrai maintenant. Il y a eu des progrès quand même en la matière depuis 20 ou 30 ans. Il ne suffit pas de stimuler la demande. Et stimuler la demande, si elle vient buter sur les capacités de production de l'économie, le résultat, c'est de l'inflation. Ce n'est pas plus de production, c'est plus d'inflation.
Ce qui a été le cas.
Et effectivement, on a pu procéder à des relances keynésiennes un petit peu à contre-temps. C'était probablement le cas, alors tout est question de dosage également, hein, évidemment, mais il ne faut pas négliger l'offre parce que ce qui assure le niveau de vie à long terme de la population, c'est les gains de productivité. On peut peut-être dire ce que c'est que la productivité quand même.
Oui, parce que finalement,
on est en train de discuter.
J'ai remarqué d'ailleurs que certains journalistes, même dans leurs commentaires, confondent production et productivité, alors que ce sont deux concepts qui ont des liens, mais différents. Hein. Et ce qui est important, justement, dans la croissance, c'est la productivité. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir, pour nos auditeurs, ce qu'est la productivité.
Eh bien, la productivité, donc, c'est le volume de production de l'économie. Et alors, production est presque inexact pour les comptables nationaux, mais je ne vais pas rentrer dans des détails inutiles. Donc, c'est le volume de la production de l'économie rapporté au nombre de personnes qui contribuent à la production ou au nombre d'heures travaillées. Hein. Donc, il y a deux façons, finalement, de produire plus. C'est soit de faire contribuer plus de personnes à l'activité productive ou de les faire travailler les davantage.
Plus, hein, c'est la quantité de travail.
C'est la quantité de travail. Et l'autre méthode, c'est de rechercher des gains de productivité.
Donc
et
ça, derrière c'est la qualité du travail, si je dis oui.
C'est la qualité, oui. Alors, derrière la productivité, donc, il y a le progrès technique. Et puis, il y a aussi, l'intelligence dans la façon d'utiliser les machines, les connaissances,
on y reviendra voilà. Parce que vous avez, dans votre livre, remarquablement analysé ce phénomène. Alors, 74-76, donc la politique de Jacques Chirac, et il faut noter que le PIB en volume, en croissance annuelle moyenne entre 70 et 74, il croît de 5,3%. Entre 75 et 79, il ne croît que 2,9%. Donc, on a une chute extrêmement importante de la croissance. Alors, en 1976, Jacques Chirac quitte volontairement l'hôtel Matignon et il est remplacé par Raymond Barre, qui tente de redresser la situation par une politique de rigueur, mais avec des contraintes et des contraintes politiques qui pèsent sur lui. Il arrivera quand même à faire voter le budget de 1981 pour l'année 81 en équilibre, je crois. Mais ça ne veut pas dire qu'il a été
exécuté en équilibre.
Donc, Raymond Barre essaie de redresser la situation. Hein, je crois qu'on peut, on peut le dire, de maîtriser la dérive budgétaire, car c'est à ce moment-là aussi, à partir de la deuxième partie des années 70, et on y verra qu'on bascule dans une économie de dette. Hein, puisque, je fais peut-être une erreur, mais je crois qu'en 1972-73, la dette publique, c'était 10% du PIB. Enfin, elle était très faible. Et d'ailleurs, en 1957, la France avait rencontré des problèmes financiers importants, autant de Félix Gaillard, quand il était ministre de l'économie, mais j'avais regardé, je crois que la dette publique française, c'était 23-24%. Hein. Donc, rien à voir avec ce dont on va parler pour aujourd'hui. Et donc, élection présidentielle en 1981, François Mitterrand est élu, la gauche appuie sur le programme commun, et le programme commun, vous parliez du keynésianisme, le programme commun, c'est véritablement l'application d'une vision keynésienne et, je dirais, sans connaissance, sans vision concrète de la réalité, quoi.
Oui, tout à fait. Et, Mitterrand est allé se fracasser sur le mur de la réalité. Il a fait marche arrière en 1983, et, effectivement, oui. Et puis Mitterrand, c'est aussi la retraite à 60 ans qui est complètement à contre-temps parce que les projections démographiques qui étaient disponibles au début des années 80 ou à la fin des années 70 alertaient déjà sur le fait qu'allait se produire un vieillissement de la population et que ce vieillissement était inéluctable, que c'était le résultat finalement de la réduction de la natalité, de la fin du
et puis
du
l'allongement de l'espérance de vie,
l'allongement de la durée de vie.
Oui, par démagogie, c'est une décision catastrophique, faut dire ce qui est. En plus de ça, la réduction de la durée du travail en 39 heures. Alors, les deux partaient d'un concept, d'une conception plutôt, à mon avis, complètement erronée. C'était sur le partage du temps de travail. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas compris que l'économie est une dynamique. Ils pensaient que c'était une forme d'administration il suffisait de faire moins travailler les uns pour que les autres aient un emploi.
Alors, vous avez tout à fait raison. Les élites françaises, pour une partie d'entre elles encore, sont fortement imprégnées d'une vision malthusienne de l'économie. Tout récemment, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais donc a été votée la loi de finances pour la sécurité sociale pour 2026. Et un des articles de cette loi de finances durcit les conditions de cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2027. Donc, typiquement, bon, au-delà de 67 ans, les personnes qui sont en retraite et qui veulent cumuler un emploi pourront continuer à le cumuler à 100%, mais avant 67 ans, les personnes qui ont pris leur retraite plus tôt, eh bien, au-delà d'un certain seuil qui, de mémoire, doit être à 7 000 ou 8 000 euros de revenus salariaux actuels, elles vont subir ensuite une imputation sur leur pension de retraite qui sera de la moitié, si je me souviens bien, du surcroît de revenus salariaux perçus par rapport à ce seuil. Donc, ça veut dire que ces personnes sur leurs revenus d'activité, vont être prélevés de 50% de leurs revenus, à la marge, vont être prélevés de 50% de leurs revenus, plus l'impôt sur le revenu. Donc, elles vont avoir un taux marginal d'imposition, finalement, qui va se situer, dans certains cas, à 80%.
Il y a un aveuglement. Alors là, c'est total. Déjà, en 1981, c'était un manque de vision, mais de toute façon, Mitterrand, lui, l'économie, ça ne le concernait pas trop. Ce qu'il voulait, c'était être élu. Il était prêt à... Bon, d'ailleurs, deux ans après, ça a été le tournant de la rigueur. Mais pour les concepteurs du programme commun, je crois que Jean-Pierre Chevènement était un des concepteurs du programme commun. Hein, beaucoup ont loué Jean-Pierre Chevènement, mais il ne faut jamais oublier cet aspect des choses. Et véritablement, ça précipitait, si j'ose dire, la France dans le mur.
Oui, oui.
Ça a été vraiment la grande erreur. Alors, la retraite à 60 ans, alors la réforme Fillon en 2010, on y reviendra peut-être, a déporté le départ de l'âge de la retraite à 62 ans. Mais pour autant, l'écart reste important entre ce qu'il faudrait faire. Et... Alors, si, il y a, sur la retraite, il y a quand même, oui, dans la réforme Sarkozy aussi, ça permettait aux personnes travaillant dans le secteur privé de pouvoir travailler jusqu'à 70 ans, et de ne pas avoir le couperet. Ça, c'était des éléments positifs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu, sur ce problème de l'emploi, donc on critique, et nous critiquons à juste titre, les initiatives gouvernementales, mais d'après vous aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu de la part des entreprises, là aussi, une erreur, puisque moi, je me rappelle, après la crise pétrolière, dans la fin des années 70, on avait tendance à mettre les plus âgés au chômage avec des conditions très intéressantes, mais on les retirait de l'appareil productif. Est-ce que là aussi, du point de vue des entreprises, il n'y a pas une vision à court terme que la France a payé plus tard?
Oui, alors, la difficulté, alors les plus âgés ne sont pas forcément moins productifs que les plus jeunes. Il y a deux effets de sens contraire. Il y a un effet d'expérience et puis il y a un effet d'âge qui fait qu'on a peut-être moins d'énergie à 60 ans qu'on peut en avoir à 30.
Et là, c'était même 55 ans.
Oui, hein, ouais. Oui, les pré-retraites, c'était même parfois avant 55 ans, effectivement. Alors effectivement, c'était tentant pour les entreprises, d'une part parce que les pré-retraites étaient financées sur fonds publics, et puis d'autre part parce que les travailleurs âgés sont mieux payés que les travailleurs jeunes. Donc pour les entreprises, c'était tout bénéfice, effectivement.
À condition de pouvoir remplacer les plus vieux, ce qui était, c'est pas une excuse, mais ce qui était le cas à l'époque, parce que nous avions encore des jeunesses bien formées, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais nous y reviendrons. Alors, donc, À partir de 1983, c'est le tournant de la rigueur, c'est la politique menée par Jacques Delors, et l'une des caractéristiques de cette politique, entre autres, je crois que c'est le problème de partage de la valeur ajoutée, où l'importance des salaires dans la valeur ajoutée globale tend à diminuer, hein, légèrement de quelques points, je me rappelle, j'avais regardé ça à l'époque. Donc, on passe vraiment d'une vision keynésienne. Là, c'est déjà une forme de politique de l'offre.
Oui, alors la baisse de la part des salaires dans le PIB, elle est discutée, elle est à nuancer quand même.
Oui.
Parce que sur la période des... Alors, sur les 10-15 dernières années, c'est pas vrai, parce qu'il y a eu le développement des micro-entreprises, d'un statut d'indépendant nouveau. Mais entre 1970 et 2000, disons, la part des non-salariés au sein de la population active a baissé en France. Et donc, les revenus d'activité des non-salariés, des indépendants, on ne les compte pas comme des salaires. Dans le calcul de cet indicateur. Donc, ça fausse un petit peu la comparaison. Donc, il faut être prudent, je crois, vis-à-vis de cet indicateur.
Alors, peut-être pour nos auditeurs, beaucoup de nos auditeurs connaissent tous ces concepts, mais... rappeler ce que représente la taxe, la valeur ajoutée dans l'entreprise, parce que donc il y a la taxe sur la valeur ajoutée et ce que représente la valeur ajoutée, parce que derrière, plus tard, on pourra peut-être parler de ce qu'on appelle les chaînes de valeur, hein. Et donc, comment on définit la valeur ajoutée?
Alors, pour une entreprise, la valeur ajoutée, c'est la valeur de sa production moins les achats qu'elle a fait pour réaliser les achats courants qu'elle a fait pour réaliser cette production, ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Et donc, effectivement, si on fait la somme des valeurs ajoutées pour toutes les entreprises, ça nous donne le PIB, hein, schématiquement.
Alors, justement, c'est aussi petite information, parce que, en fait, le PIB... c'est la somme des valeurs ajoutées. PIB, c'est produit intérieur brut, mais plus les impôts de production, moins les subventions. Alors, c'est intéressant parce que quand on fait des comparaisons internationales sur le PIB, qui donc, je dirais, recouvre pour l'essentiel pour la valeur ajoutée, mais avec une marge, les comparaisons internationales, il faut... prendre en compte ce qu'on appelle les impôts de production et les subventions. Hein. Tout ça, ce sont des éléments techniques. Hein.
Oui, alors vous avez raison. Vous avez tout à fait raison, mais en comparaison internationale, il y a quelque chose de probablement plus important encore à prendre en compte, c'est le poids du secteur public,
secteur non marchand. Exactement.
Alors en France, on a la particularité d'avoir les dépenses publiques les plus élevées en pourcentage du PIB. Hein. On est aux alentours
de 57%.
57%, voilà, c'est ça. Et de manière corrélative, eh bien, on a aussi le taux de prélèvement obligatoire, donc les impôts, les cotisations sociales, le plus élevé ou le deuxième plus élevé.
44% environ.
Exactement, tout à fait, c'est ça.
Et la différence... c'est pour un élément pas extrêmement élevé, les recettes non fiscales de l'État, et puis l'emprunt.
Exactement, tout à fait. Alors, il faut s'interroger sur l'importance des dépenses publiques, parce qu'on est quand même dans une situation un peu paradoxale, dans la mesure où on a les dépenses publiques les plus élevées, et on a un niveau de satisfaction des citoyens vis-à-vis des services publics qui est plus faible qu'à l'étranger, plus faible que tous les pays autour de nous, sauf l'Italie et l'Espagne de peu. Hein, voilà. Donc les services publics, ils ne sont pas forcément jugés très positivement par le citoyen.
Alors,
et puis dans les services publics, il faut distinguer deux choses aussi. Il y a des services qui sont qui correspondent à de réelles prestations comme l'enseignement, la santé. Alors, on peut discuter de la question de savoir s'il est opportun que ça soit assuré plutôt par le secteur privé ou plutôt par le secteur public. Il peut y avoir des arguments en faveur de l'une ou l'autre des deux solutions. Il peut y avoir une question de dosage. En tout cas, c'est une production qui peut se comparer à la production marchande. Hein. Et puis, il y a aussi un petit peu une bureaucratie qui s'auto-entretient. Donc, avec dans certains cercles du pouvoir, une tendance à concevoir parfois des usines à gaz, des mécanismes un peu compliqués, qui justifient finalement la présence de beaucoup de fonctionnaires.
Alors, vous posez un problème qui me paraît extrêmement important. Parce que d'un côté, vous dites, et juste raison, le poids de la dépense publique considérable et le nombre d'emplois publics est extrêmement élevé. D'un autre côté, la population, à juste titre souvent, n'est pas satisfaite de certaines prestations publiques, santé ou autres. Alors, j'aurais deux questions à vous poser. La première question, c'est, elles sont liées, est-ce que la création d'emplois publics n'a pas été un moyen de lutte contre le chômage, et on transformait un chômeur en emploi public, qu'il soit fonctionnaire ou contractuel, c'est la première des choses. Et deuxièmement, justement, comme on crée de l'emploi public, et ce n'était pas de l'emploi public forcément, je dirais, qualifié dans les domaines où on avait besoin. Je pense, par exemple, au domaine de la santé, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, hein. On en a recruté, mais à côté de ça, ils avaient peut-être une légitimité dans la résistance, mais les fameuses ARS, là, c'est de l'emploi strictement de bureau. C'est-à-dire que là, on a créé de l'emploi et avec un certain déséquilibre entre l'emploi directement, comment dire, productif, entre guillemets, pour la prestation qui est servie à la population. Et puis, un emploi, par exemple, il y a non seulement, par exemple, les ARS, mais toutes les collectivités territoriales qui ont créé d'emplois. Est-ce qu'il n'y a pas ce double problème ?
Oui, tout à fait, oui. Il y a eu, je pense, le sentiment qui n'était qu'à moitié juste, que l'informatique pouvait autoriser toutes les sophistications dans les processus de reporting, de décision au sein de la sphère administrative. Il y a quelque chose qui est assez typique de ça et qui a affecté aussi le secteur privé, pour le coup, c'est la complexification des bulletins de paye au fil du temps. On est passé dans les années 70, un bulletin de paye, il avait 5 ou 6 lignes.
Oui, je me rappelle les premiers, oui, c'est ça maintenant.
Et maintenant, si vous voyez les bulletins de paye actuels, c'est infernal. Donc il y a eu l'idée que ce travail-là pouvait être automatisé avec l'informatique, ce qui n'est pas complètement faux, mais qui n'est pas totalement vrai aussi. Derrière la complexité, quand on rajoute une taxe, même une taxe à faible taux, à faible rendement, et ben derrière, il faut qu'il y ait une activité de collecte d'informations en amont pour pouvoir calculer la taxe. Il faut qu'il y ait une vérification derrière vis-à-vis de la fraude. Donc, c'est jamais totalement automatisé. C'est un peu un mirage.
Merci. Alors, nous allons y revenir. Stéphane va nous passer le bobineau. Et vous avez posé une question, un problème très important sur lequel nous allons revenir.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci Stéphane. Alors en effet, vous avez posé, vous avez présenté un problème extrêmement important. Alors rappelons que pour relancer l'économie, le programme commun donc a engagé et a mis en œuvre la nationalisation des banques, enfin de la plupart des banques, et a nationalisé des grands groupes industriels au nom de la relance de l'économie. Ça n'a pas eu de résultat positif, et au contraire, depuis les années 1980, on constate malheureusement une désindustrialisation du pays, c'est-à-dire une baisse de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière dans la formation du PIB. Et donc, il y a plusieurs explications à cette désindustrialisation, et vous venez d'une certaine manière d'en donner une, c'est-à-dire le poids des demandes bureaucratiques vis-à-vis des entreprises, les normes et autres, qui ont grevé le potentiel de compétitivité des entreprises, certainement beaucoup plus que dans d'autres pays voisins et concurrents.
Oui, tout à fait. Alors, quand on crée des emplois publics ou quand on n'impose une mécanique bureaucratique un peu lourde, effectivement, ça a un impact sur la productivité des entreprises et donc sur leur compétitivité sur les marchés internationaux. Et alors, il s'est rajouté là-dessus la création de l'euro donc, en 2000. Et depuis 2000, si vous regardez, bien, le solde commercial de la France, il se dégrade continuellement. Oui. On était à l'équilibre en 2000.
On avait connu au milieu des années 90, c'est une bonne décennie d'ailleurs. Ça ne va pas durer 10 ans, enfin 5-6 années extrêmement favorables, où on avait un solde du commerce extérieur positif, même à un certain moment qu'on n'avait pas eu durant les 30 glorieuses. Hein, donc, et en fait, alors on va revenir d'ailleurs sur la création de l'euro, qui a été quand même un élément très important et qui pénalisant. Mais on parlait donc de ce manque de compétitivité. À partir des années 80, les économies occidentales des pays anciennement développés, si j'ose dire, ont commencé à subir la concurrence des nouveaux pays industrialisés. Ce furent le Japon, les quatre dragons, et puis, c'est la Chine, fin des années 90, 2000, la Chine atelier du monde. Et la France a subi tous ces coups de plein fouet parce que on avait une vision un peu péjorative de l'Italie, mais l'Italie, je crois qu'en termes de valeur ajoutée de l'industrie manufacturière, c'est 14%. La France, c'est 10%. Hein.
Ils sont au-dessus de nous, oui, effectivement, oui. Tout à fait.
Et donc là, on a...
Ils ont un tissu industriel en Italie du Nord fait de petites entreprises qui est résistant, plus résistant que notre tissu industriel. Alors, les Italiens sont concernés comme nous, tout de même par les faibles gains de productivité, oui. Hein, probablement pour des mêmes raisons qui tiennent à la détérioration du système éducatif.
Ça, on va y revenir.
On y viendra. Ils sont concernés, comme nous, par l'euro qui est surévalué pour l'Italie. Et effectivement, mais pour autant, leur tissu industriel résiste mieux.
Oui, parce que le nôtre, enfin, il s'est affaissé dans des proportions très conséquentes. Parce que l'industrie manufacturière, à la veille du premier choc pétrolier, c'était, je crois, 22-23%. Et là, on est à peine à 10 aujourd'hui. Hein. Donc, on a, pendant ces décennies 80-90, même avec ce regain du commerce extérieur que l'on a connu, eh bien, on a vu le pays s'est désindustrialisé. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la dette, mais vous avez tout à l'heure cité aussi un autre facteur extrêmement important. C'est la création de la monnaie unique le 1er janvier 1999, qui, soi-disant, devait nous ramener sur le chemin de la croissance. Il n'en a rien été parce que le taux initial qui a été choisi était très favorable à l'Allemagne, beaucoup plus favorable à la France. Et puis d'autre part, la France avait l'habitude de dévaluer et que la monnaie unique lui interdit, toute dévaluation compétitive.
Oui, alors la monnaie unique, ça veut dire qu'on est en change fixe au sein de la zone euro.
Hein. Et non ajustable.
Et non ajustable. Et quand on a une monnaie surévaluée, en fait, comment dire, la monnaie forte, ça ne se décrète pas. C'est ça l'erreur. Et d'ailleurs, la création de l'euro a été critiquée par un grand nombre d'économistes, y compris d'ailleurs une dizaine de prix Nobel d'économie.
Oui,
Krugman, Thomas Sargent, Pissarides, donc des gens tout à fait respectables qui ont dit que c'était une ineptie, un pari très risqué pour les plus indulgents de ceux d'entre eux. Donc effectivement, on a des gains de productivité qui sont plus faibles en France et en Italie et en Espagne qu'ils ne le sont en Allemagne ou aux Pays-Bas. En gros, il y a une opposition entre l'Europe du Nord où les gains de productivité continuent à croître à un rythme relativement élevé et puis l'Europe du Sud où ils stagnent quand il ne diminue pas. Et bien, ce qui se passe, c'est que du coup, si on veut rester compétitif sur les marchés internationaux, il faut soit baisser les salaires, puis soit dévaluer. Mais dévaluer, quand on est en change fixe, on ne peut pas. Donc, on perd cet instrument d'ajustement. Et donc comme les gains de productivité sont moindres qu'à l'étranger, du coup, les coûts salariaux unitaires à progression des salaires donnés sont plus élevés en France et on perd des parts de marché, donc le déficit se creuse. Donc, si on était en change variable, en change flottant, le franc se déprécierait et ça rétablirait l'équilibre. On n'a pas ce mécanisme. Et donc, la seule façon de restaurer le solde commercial, c'est de freiner les salaires, de baisser les salaires. Et on sait qu'ils sont inertes, évidemment, à la baisse. Et puis, ça a des effets récessifs, au moins à court terme. Mmh. Et donc, c'est très dommageable. Voilà. C'est, la parité d'une monnaie ne se décrète pas.
Tout à fait. Vous avez tout à fait raison parce que derrière, il y a un mal endémique hein, qui court donc depuis le milieu des années 70. C'est un taux de chômage qui est très élevé, qui oscille entre 8 et 10 %. Et l'objectif de l'actuel président de la République, c'était de ramener le chômage, je crois, à 5 %. Les derniers chiffres ne vont pas dans ce sens, d'autant plus que le chômage n'est pas forcément facile à calculer, puisque France Travail distingue cinq catégories de chômeurs. Donc, il y a les personnes qui sont vraiment sans emploi, ceux qui ont eu un emploi, mais qui ne leur suffit pas. Donc, en fait, le nombre de chômeurs est important, puisque je crois qu'à la fin du quatrième trimestre 2025, 5 753 000 personnes étaient inscrites à France Travail au titre de l'ensemble au total 7 557 000 qui étaient inscrites à France Travail, ce qui est relativement considérable. Ça ne veut pas dire que tout le monde est au chômage total, mais une partie est au chômage partiel ou a une activité qui ne suffit pas finalement à sa subsistance.
Oui, tout à fait. Alors, dans le chiffre de 7 millions que vous citez, évidemment, il y a différentes catégories.
Il y a des situations
très hétérogènes et des situations...
Il y a 7 catégories
gravité,
au total, c'est compliqué.
Qui n'est pas toujours la même, hein, évidemment. Mais effectivement, il y a...
Donc, on a un nombre de personnes qui sont soit sans emploi, soit un emploi qui ne leur permet pas d'avoir des revenus acceptables, qui en France est important. Et aujourd'hui, finalement, on est autour de un peu moins de 8%, hein, ce qui est considérable, d'autant plus qu'il y a le chômage de longue durée. Alors, avant d'aborder donc le problème, parce que vous parlez du problème de productivité, on va aborder le problème de la formation, ce qui nous permettra d'ailleurs de déboucher sur les axes de redressement. Tout cela, finalement, ça se traduit par de la dette. Une dette en France qui atteint, comme on l'a dit tout à l'heure, des proportions extrêmement élevées. Et alors, vous parliez très justement de l'euro, et l'euro, probablement, a deux inconvénients. Un premier inconvénient, c'est qu'à sa création, c'est la compétitivité de l'économie française qui entre en cause. Et puis, ces dernières années, ces 10 ou 12 dernières années, surtout, l'euro nous a permis de nous endetter, mais je dirais d'une certaine manière sans limite, parce que il ne s'agit pas de dire s'il n'y avait pas eu l'euro, on n'aurait pas pu s'endetter. S'il n'y avait pas eu l'euro, la France n'aurait pas pu s'endetter de cette manière parce que le franc se serait effondré. Hein, je crois qu'on peut dire ça. Donc c'est sans animosité, mais il y a deux effets pervers. Hein.
Oui, c'est. Je crois que c'est Nicolas Bavrès qui a dit récemment que la dette, c'était l'édredon qu'on. Qu'on met pour ne pas entendre le réveil sonner, c'est un petit peu ça. Effectivement, l'expression me semble très juste. La dette, c'est problématique à plusieurs égards. Il y a la dette publique, d'abord, les 3 500 milliards, 117% du PIB. Et puis, il y a aussi la dette privée.
Exactement.
Qui est, donc, la dette des ménages et la dette des entreprises, qui sont toutes les deux à des niveaux records en pourcentage du PIB. Donc, ce n'est pas seulement un problème d'endettement de l'État vis-à-vis de la société française ou de l'étranger. C'est un problème global d'endettement de la France vis-à-vis du reste du monde. Alors, c'est important parce que la dette, c'est un capital négatif. C'est la dette, ça obère nos possibilités de nous endetter et donc de financer des investissements. Or, pour produire, on a besoin, je l'ai dit tout à l'heure, d'hommes et de femmes. On a besoin de travailleurs éduqués, capables de tenir leur poste. Mais on a aussi besoin de machines, évidemment, et on a besoin que les travailleurs sachent faire tourner les machines ou l'équipement qui est à leur disposition dans le cadre de leur activité professionnelle. Alors, et donc, donc voilà, ça a ouvert les possibilités d'investir et donc de produire davantage demain.
Alors je crois que c'est très important ce que vous dites, parce qu'il y a le sous-investissement matériel et puis le sous-investissement éducatif, on va y revenir. Alors, pour la dette, donc, en fait, c'est 117,4. L'un des problèmes qui se pose, c'est qu'elle est détenue pour partie par des résidents étrangers. Alors, la dette publique se divise en deux types d'instruments. On a les obligations assimilables du Trésor et les bons du Trésor à taux fixe. Alors, les bons du Trésor à taux fixe, c'est moins un an et moins d'un an. Et les obligations assimilables du Trésor, c'est plus d'un an. Et alors, d'après les chiffres de l'Agence France Trésor, je crois à mi-2025, pour les OAT, les organisations, les obligations assimilables du Trésor, 54,7% détenus par les non-résidents. Et pour les BTF, alors là, c'est 81,3% détenus par les non-résidents. Et il faut savoir que sur la dette, je pense sur les OAT, la Banque de France en détient à peu près 20%. Alors, pourquoi elle en détient 20%? Parce que la Banque Centrale Européenne, c'est un système de banques centrales et que les opérateurs, ce sont les banques centrales nationales. Et quand la BCE a un programme d'achat de titres sur le marché, les titres français sont, qu'il s'agisse de résidents ou non-résidents, sont rachetés par la Banque de France. Hein. Et c'est de la création monétaire, ça. Il ne faut jamais, l'oublier. Quand la Banque de France rachète des titres, c'est de la création monétaire. Donc ça, je crois que c'était une précision pour comprendre quand même la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Alors, vous avez touché un problème extrêmement important, c'est celui de la productivité lié au problème de la formation. Lorsqu'on a parlé des 30 Glorieuses et de l'affaiblissement de la productivité, là, ce n'était pas un problème de formation. On avait des générations bien formées, puisqu'elles avaient été formées par les générations de l'entre-deux-guerres, voire les générations d'avant la Première Guerre mondiale. Là, et ça, vous l'avez remarquablement analysé dans votre livre, c'est l'effondrement du système éducatif, qui, apparaît notamment dans les classements PISA. Alors, d'ailleurs, l'effondrement, il est qualitatif, mais en termes, par exemple, si je prends l'exemple du baccalauréat, en 1950, il y avait 5,1% de bacheliers par classe d'âge. En 1967, c'est ma génération, 15,4%. En 2024, si on ajoute le baccalauréat général, le baccalauréat technologique, le baccalauréat professionnel, on a 79,4%. Hein. Et même le baccalauréat général, 43,1%. Donc, si on compare avec les bacheliers de 67, c'est trois fois le nombre de bacheliers de 67. Et pourtant, on a des classements PISA déplorables et qu'une partie de ces bacheliers ne trouveront jamais d'emploi à la hauteur de ce qu'ils estiment être leur diplôme.
Tout à fait. Alors, effectivement, donc, ce que montrent les classements PISA ou similaires, il y a d'autres dispositifs, hein, TIMSS, PIRLS, qui sont des dispositifs d'évaluation des compétences, connaissances acquises à un âge donné, à un moment donné du parcours scolaire. Donc, le niveau baisse. À un âge donné, le niveau baisse. Alors, sur le niveau de formation en sortie du système scolaire, c'est compensé par l'allongement de la durée des études. Je vais revenir dessus. C'est encore compensé.
On y reviendra parce que
par l'allongement de la durée des études. Alors, le niveau baisse à âge donné. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Il y a une première raison qui a été évoquée par Emmanuel Todd. Emmanuel Todd dit qu'il y a un déclin général éducatif en Occident. Et ce déclin, il commence dans les années 60, au moment où apparaît la télévision. Alors, pourquoi la télévision ? Alors, aujourd'hui, on peut ajouter les écrans.
Et les réseaux sociaux.
Dans les deux cas, finalement, ça encourage une attitude passive. Contrairement à la lecture où on s'implique dans l'ouvrage finalement, où on est beaucoup plus dans une posture active. Ça, c'est la première raison. Ça, c'est une raison qui est générale à l'Occident. Et,
oui, parce qu'aux États-Unis, ils observent aussi.
Oui, tout à fait. Il y a une deuxième raison, c'est qu'on paye les profs très mal en France. Là, pour le coup, c'est quand même particulièrement accentué en France.
Il faut, vous avez donné des statistiques dans votre livre, très intéressant.
Voilà, il faut voir qu'en 1990, de mémoire, un instituteur qui débutait en 1990, il gagnait 1,8 fois le SMIC, si je me souviens.
Oui, c'est ce que vous avez donné dans votre livre, oui.
Et maintenant, c'est 1,5 fois le SMIC. Par contre, l'agrégé, il débutait à 2,1 fois le SMIC en 90, et maintenant, il est payé 1,7, 1,8 fois le SMIC. Donc, en gros, en termes de considération sociale, l'agrégé débutant, aujourd'hui, il n'est pas mieux considéré que l'instituteur débutant il y a 30 ans. Donc je pense que là, pour le coup, ça illustre le déclassement, pour ne pas dire la prolétarisation du corps enseignant.
Et ce qui fait que les talents s'en détournent.
Oui, c'est très difficile de recruter. Du coup, les derniers admis au concours, ils sont admis à 6 sur 20 au CAPES en mathématiques, à 7 ou 8 sur 20 dans les autres disciplines, y compris dans les disciplines littéraires, pour lesquelles les débouchés alternatifs ne sont pas aussi importants que pour les mathématiques ou pour les sciences. Et puis le troisième facteur important, c'est la dégradation de la discipline en classe. Et la discipline en classe, les enquêtes PISA montrent qu'elle est particulièrement mauvaise en France, puisque dans le panel de pays qui sont observés dans les enquêtes PISA, il doit y avoir de mémoire une trentaine ou une quarantaine de pays qui sont observés dans le dispositif. Et il y en a seulement deux qui ont des résultats en termes de discipline en classe qui sont moins bons que la France. Pour la petite histoire, c'est le Brésil et l'Argentine. Bon, voilà. Donc, quand vous cumulez tout ça, on a une dégradation des résultats scolaires à âge donné. Et donc, c'est compensé par un allongement des études. C'est compensé en partie par un allongement des études. Et là, pour notre propos, c'est intéressant aussi parce que, donc, en France, on a des filières qui sont sélectives, grandes écoles, BTS, quelques filières sélectives à la fac aussi, comme la médecine. Et puis, en dehors de ça, on a eu une absence de sélection et on envoie quasiment tous les bacheliers à la fac sans sélection. Et le résultat, c'est que plus d'un bachelier sur deux qui engage des études universitaires, au bout de 5 ans, a quitté la fac sans diplôme. Plus d'un sur deux.
Alors, ils quittent la fac sans diplôme, et puis il y a une prolifération dans certaines filières. Alors, moi, c'est une remarque que je me suis toujours faite. C'est aujourd'hui, on parle de bac plus 5, par exemple, comme si toutes les filières se valaient. Moi, quand j'ai fait mes études, on faisait tel type d'études. C'est ça qui comptait, c'était pas le faire. Et est-ce que là aussi, ça n'a pas un effet pervers, parce que vous avez des étudiants qui s'engagent dans des filières littéraires, sociologiques ou autres, où on a besoin certainement de compétences, mais dans des proportions réduites. Vous parliez des enseignants, faire des études d'histoire, de lettres, ça débouche sur le CAPES ou l'agrégation. Et là, on a des étudiants qui se précipitent, qui vont dans ces filières et qui finalement n'acquièrent pas de qualification et sortent ensuite aigris par rapport au marché du travail parce qu'ils n'ont pas situation au regard de ce qu'ils estiment être leur niveau de diplôme. Est-ce que c'est aussi un problème, ça, je pense?
Oui, tout à fait. Et alors, le problème, c'est qu'on envoie donc faire des études académiques des jeunes qui, pour certains d'entre eux, n'ont pas les capacités pour les mener à bien, qui pourraient faire de très bonnes études techniques. Et le paradoxe, c'est qu'on ne forme pas assez d'ouvriers. Et c'est d'autant plus dommage que finalement, en forçant un peu le trait, si vous êtes plombier ou menuisier débutant aujourd'hui, vous gagnez bien mieux votre vie. Oui. Que si vous êtes caissier ou caissière dans un supermarché, après avoir fait 5 années d'études universitaires sans avoir obtenu le moindre diplôme.
Et puis, quand vous parlez d'ouvrier, un ouvrier aujourd'hui, pour l'essentiel, ce n'est pas du tout comparable à l'OS des années 50. Ce sont des techniciens, parce que, vous parliez tout à l'heure de la numérisation avec la machine. C'est vrai que ces professions ont été délaissées. Or, elles offrent probablement pour un avenir beaucoup plus important, beaucoup plus relevé que certaines filières où les gens d'ailleurs finissent par être aigris parce qu'ils n'ont pas une situation à la hauteur de ce qu'ils espèrent.
Alors, oui, alors vous avez raison. Ça, en plus, le fait d'être aigris, ça a un impact probablement négatif sur la motivation des personnes dans leur emploi. Donc, c'est doublement contre-productif. Oui. Mais vous, dans cette histoire, je trouve que les hommes politiques ont fait, pour un certain nombre d'entre eux, preuve d'un petit peu de lâcheté, parce que là encore, c'est le malthusianisme, c'est l'esprit malthusien. Ils se sont dit, on va parquer. Bon, j'exagère peut-être.
Oui, vous avez raison.
On va parquer les jeunes à la fac. Comme ça, ils n'entreront pas tout de suite sur le marché du travail.
Oui,
donc, ça fera moins de chômage. En fait, le chômage, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Je pourrais faire un développement sur les explications, les théories économiques du chômage par le biais de la formation des salaires et des prix, mais ça nous prendrait trop de temps. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais c'est vraiment une vision malthusienne et surtout fausse.
Mais je crois que vous avez tout à fait raison. C'était l'idée, finalement, plus la durée des études s'allonge, en fait, tous ces jeunes, ils sont étudiants, ils ne sont pas chômeurs. C'était ça. Ce qui réduit d'autant la durée de vie active, puisque bon, on entre plus tard sur le marché du travail, et puis la retraite arrive relativement tôt.
Oui. Et alors, là-dessus, sur la durée des études, je pense qu'il y a un fossé aussi énorme entre la France des villes et la France périphérique, parce que pour un jeune qui habite à 50, 80 kilomètres d'un centre universitaire, eh bien, entamer des études universitaires, ça veut dire trouver un logement dans la ville universitaire. Et donc, l'allongement de la durée des études, forcément, il n'est pas vécu de la même manière dans les ménages bourgeois des centres-villes et dans les ménages ouvriers périurbains.
Absolument, oui, parce que ça a un coût conséquent. D'ailleurs, ça oblige une partie de ces étudiants à travailler. Enfin, donc, ça induit un certain nombre de contraintes. Alors, le chômage est une catastrophe. Faut connaître ce qui est. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la tendance est à l'amélioration. Mais, en plus, non seulement on n'a pas la capacité à employer toutes les personnes en position d'être actifs, mais je ne dis pas on a recouru, mais il s'est imposé une immigration massive depuis plusieurs décennies et qui, économiquement, n'est pas sans poser problème. D'abord, parce que c'est un coût financier, et puis, d'autre part, c'est le problème de l'insertion dans le monde du travail qui peut se poser pour certaines populations qui sont originaires d'autres aires de civilisation. Et c'est là où votre article sur Garrett là, est tout à fait remarquable.
Oui, alors Garrett Jones, c'est un universitaire. C'est un universitaire américain remarquable qui adressait un panorama des études disponibles, des études économétriques qui ont été réalisées sur la question de l'intégration des immigrés, de leur contribution au fonctionnement de l'économie et des facteurs culturels qui peuvent favoriser ou inhiber leur bonne participation au marché du travail dans les pays d'accueil. Le travail de Garrett Jones, c'est très intéressant parce qu'il montre, montre plusieurs choses. Il montre d'abord que les migrants, quand ils migrent d'un pays à un autre, ils emportent avec eux leurs valeurs culturelles,
ce qui
est normal, c'est humain, on a tous reçu une éducation, l'éducation ça varie selon les pays, selon la culture, ils conservent ces valeurs plus ou moins toute leur vie et ils les transmettent aux générations qui les suivent. Et il y a des papiers très intéressants. Il y a notamment un papier de Yann Algan et de Pierre Cahuc, qui sont deux universitaires français qui sont cités donc, par Gareth Jones, qui montre que après plusieurs générations, après 3 ou 4 générations, eh bien finalement les Italiens ou descendants d'Italiens installés aux États-Unis continuent à se comporter plus comme les Italiens en Italie que comme les Américains de souche, si tant est que cette expression ait du sens, puisque les États-Unis ont été construits depuis 2 siècles par des flux d'immigration européenne, essentiellement. Voilà. Donc ça, c'est un premier résultat intéressant.
Alors, il y a d'ailleurs le problème aussi pour une certaine immigration de l'endogamie aussi, qui ne facilite pas, le fait qu'on s'assimile au sein de la société, c'est-à-dire que finalement, on adopte les mœurs et coutumes du pays d'accueil.
Oui, tout à fait. Alors, concernant la France, Michel Tribala a montré que ce qu'on appelle le mariage mixte, c'est-à-dire mariage entre un Français et une étrangère ou l'inverse, eh bien, ce sont souvent des mariages endogames sur le plan ethnico-religieux où typiquement... Un immigré ou enfant d'immigrés d'origine africaine, par exemple, en France, va prendre pour épouse une cousine.
Vous avez tout à fait raison de soulever
village d'origine.
Ce problème, parce que quand on parle de mariage mixte, en France, il n'y a pas de statistiques ethniques. Donc, si vous voulez, il y aura une forme de contradiction. On n'a pas de statistiques ethniques. Et de parler de mariage mixte. En fait, les mariages mixtes, c'est entre des nationaux, des personnes qui ont la citoyenneté des Françaises, et puis des personnes qui ne l'ont pas. Je crois que c'est ça la définition du mariage mixte. Mais on veut nous faire croire que, en fait, il y a une assimilation, je dirais pas une fusion, mais enfin une osmose qui se produit entre un certain nombre de populations d'origine immigrée et les populations dites de souche.
Mais oui, alors effectivement, mais c'était la thèse de Hervé Lebras de dire il y a beaucoup de mariages mixtes, regardez.
Oui.
Mais Michel Tribala répondait il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et puis, dans les valeurs culturelles qui sont importées par les migrants quand ils viennent s'installer, il y a des comportements qui peuvent être propices à la croissance ou à un niveau de vie élevé ou pas. Par exemple, le taux d'épargne qui peut être, selon les populations, élevé ou faible. On sait qu'au sein des populations asiatiques, par exemple, il y a un taux d'épargne élevé.
Et
ça permet de financer des investissements et donc ça favorise la croissance et un niveau de vie élevé. Dans d'autres groupes de population immigrée, le taux d'épargne est plus bas que parmi la population autochtone en France.
Voilà. Donc
ce que montre aussi Gareth Jones, c'est que quand on regarde les facteurs qui expliquent que certains pays sont plus riches que d'autres aujourd'hui, il y a des facteurs institutionnels, la qualité des institutions, est-ce que c'est démocratique, est-ce qu'il y a des tribunaux qui fonctionnent correctement, est-ce qu'il n'y a pas trop de corruption, il y a l'ouverture au commerce international aussi qui est un facteur de niveau de vie plutôt élevé. Il peut y avoir des facteurs géographiques comme l'existence de débouchés maritimes. Mais il y a aussi et surtout, derrière tout ça, des facteurs culturels profonds.
Alors, je crois que c'est un peu important de l'honnêteté, sans être péjoratif, sans être critique, mais ce sont des constats faits par des gens tout à fait éminents. Et vous parliez tout à l'heure de Michel Tribala. Michel Tribala, c'est une personne qui, avec le déroulement de sa carrière, si j'ose dire, a changé d'approche. Hein. Elle était plus proche d'Hervé Lebras au début, alors que maintenant, elle a carrément, scindé l'approche. Alors, vous nous avez très bien exposé que pour redresser l'économie française, il y a un problème de compétences, donc un problème de système éducatif derrière, que l'immigration n'est pas une solution, hein, tout au moins au niveau où on le constate, parce que l'immigration, c'est vrai qu'elle est vue comme des personnes finalement qui seraient en importe de la manœuvre, qui seraient tout à fait assimilables en tant que main-d'œuvre à la main-d'œuvre locale. Alors, ce n'est pas une. On s'aperçoit que ce n'est pas une solution.
Donc, certains immigrés peuvent être
bien sûr, il s'agit
à leur niveau.
Quand je dis, c'est bien sûr, il y en a d'ailleurs qui réussissent parfaitement et qui, d'ailleurs, on trouve dans tous les emplois des personnes d'origine immigrée, mais c'est la question de l'effet de masse qui se pose et qui fait que de toute manière, on ne peut pas offrir d'emploi à toutes les personnes immigrés qui arrivent sur notre sol, et qu'il est évident qu'il y a de très brillantes réussites. Mais donc, l'immigration telle que la conçoivent certains n'est pas une solution, qu'il faut redresser, et ça c'est extrêmement important, le système éducatif, ce qui nécessite un travail en profondeur. Quels sont les autres éléments qui nous permettraient de nous redresser? Et à votre avis, au jour où on est aujourd'hui, avec la situation que l'on connaît, est-ce que véritablement il y a des espoirs substantiels d'un redressement dans la prochaine décennie? Parce que ce n'est pas dans les 6 mois ou dans l'année à venir, bien entendu.
Bah, les grands axes, vous l'avez dit, ça serait de redonner l'efficacité du système éducatif, donc de restaurer la discipline, de payer mieux les enseignants, ça me semble assez évident. C'est aussi d'arrêter d'envoyer systématiquement les jeunes après le bac à la fac et de développer l'apprentissage en liaison étroite avec les entreprises et de former davantage aussi à des métiers manuels. Alfred Sauvy notait il y a déjà 50 ans que les métiers manuels étaient mal considérés et c'est triste parce que notre pays en paye les frais. Et puis aussi d'être peut-être sans doute plus raisonnable sur la taille du secteur public et d'arrêter de monter des usines à gaz comme on le fait souvent, parce que les fonctionnaires, il faut les payer, c'est des impôts qui pèsent sur les ménages, et alors c'est leur niveau de vie qui est affecté, ou sur les entreprises, c'est leur compétitivité, leur productivité qui finissent par être affectées. Il faudrait sans doute revenir à quelque chose de plus raisonnable en la matière. Mais les obstacles pour mettre tout ça en œuvre, ils sont dans les têtes, ils sont dans les têtes des élites. C'est principalement là la difficulté, à mon avis.
Alors, il y a une question qu'on n'a pas vraiment développée, on a fait un peu allusion. Il y a aussi toutes ces normes écologiques qui sont paralysantes pour l'industrie et pour l'agriculture aussi. Et est-ce que, justement, on ne met pas les Français à ce moment-là devant un choix? Bon, vous voulez véritablement vous inscrire dans toutes ces normes écologiques, mais il faut que vous admettiez à ce moment-là que votre niveau de vie va diminuer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger l'environnement, c'est autre chose. Mais au niveau de ces normes, c'est un choix. C'est-à-dire un choix au niveau du niveau de vie général, et admettre à ce moment-là que, ma foi, si on veut protéger la nature comme le veulent les écologistes, il faudra admettre une réduction de notre niveau de vie. Et la population n'est probablement pas prête à l'admettre.
Alors, c'est un point important, effectivement, et je pense qu'il y a un exemple. Bon, on avait une prime pour l'achat d'un véhicule électrique qui était de 7 000 euros. C'est un peu moins maintenant, ça dépend du niveau de revenu de l'acheteur. Bon, donnons 5 000 euros comme montant moyen. Je pense qu'on ne doit pas être très loin de la réalité. 5 000 euros, on a un parc de 40 millions de véhicules. Donc, si vous multipliez 5 000 euros par 40 millions de véhicules, ça représente une dépense de 200 milliards, une dépense publique de 200 milliards, certes étalée sur 10, 15, 20 ans, je ne sais pas, mais 200 milliards tout de même. Hein. Alors que les émissions de CO2 en France dans les transports, c'est 0,3% des émissions de CO2 mondiales. Donc, ça veut dire qu'on est en train de dépenser une somme folle pour un résultat qui sera négligeable. Donc, si tant est qu'il y ait un problème de réchauffement climatique, et je veux bien le croire, il faut tout de même que l'argent qui est dépensé pour lutter contre ça le soit à bon escient. Voilà ce que je voudrais dire.
Merci, merci André-Victor Robert, parce que nous arrivons à la fin de ce libre journal. Et je vous remercie de nous avoir présenté une argumentation aussi bien sur la situation économique présente que sur les solutions éventuelles pour un redressement. Et je rappelle le titre de votre livre, « La France au bord de l'abîme, les chiffres officiels et les comparaisons internationales » publié chez l'Artilleur. Et nous publierons prochainement une note sur Polémia, hein, reprenant finalement l'essentiel de ce qui a été dit dans ce libre journal, voire nous développons certains points. Donc il faut compter quand même quelques jours pour que nous rédigions tout cela. Alors ce libre journal sera rediffusé samedi 14 février à 15h30 et dimanche 15 février à 21h30. Et chers auditeurs, il vous sera possible d'écouter ce libre journal sur le site de la radio. Et si vous êtes donateur à la radio, eh bien vous pourrez télécharger l'émission et nous en vous encourageons vivement à être donateur, puisque la radio ne vit que par les dons de ses auditeurs. Je remercie Stéphane pour la réalisation de ce libre journal. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir à tous et rendez-vous dans 4 semaines, le 12 mars prochain. Merci.
Vous venez d'entendre le libre journal de la souveraineté dirigé par Michel Leblay, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 12 février 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.